Deuxième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des indépendantismes, alors même qu'en Catalogne et en Écosse, certains rêvent de sortir des tutelles britanniques et espagnoles. Aujourd'hui, un témoin de l'indépendantisme guadeloupéen, Luc Reynette. Après avoir discuté hier du rôle de l'histoire dans les revendications kanak avec Alban Binça et avant demain d'évoquer les racines de l'indépendantisme catalan, Séverine Yatar et Séverine Cassard ont rencontré l'indépendantiste guadeloupéen Luc Reynette, ancien dirigeant de l'Alliance révolutionnaire Caraïbe et membre fondateur du Comité international des peuples noirs. Comment Luc Reynette voit-il ces années de militantisme radical qui l'ont poussé à poser des bombes dans les années 1980? Quel rapport entre ces événements et ceux de la Nouvelle-Calédonie à l'époque et entre ces événements et ces mouvements et ceux qui ont secoué la Guadeloupe depuis, en particulier à la fin des années 2000 avec le mouvement anti-profitation? C'est ce que nous découvrons dans ce documentaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, itinéraire d'un indépendantisme guadeloupéen par Séverine Yatar et Séverine Cassard.
À Paris, pendant 3 jours, s'est tenue une réunion d'un type assez particulier. Le thème était déjà tout un programme. Réunion des nationalistes et indépendantistes des dernières colonies françaises.
2 octobre 2000.
Dans le genre, les Kanaks font figure de précurseurs grâce aux accords de Nouméa, signés en 98. Les Corses, eux, occupent le terrain de l'actualité. Mais il n'y a pas qu'eux, comme tient à le rappeler l'autonomiste guadeloupéen Luc Reynette au micro de Fabien Saintès.
Nous avons le sentiment que l'opinion française entend parler de la Corse comme elle a entendu parler de la Kanakie. Et nous profitons effectivement d'une dynamique qui est lancée, de débats qui divisent aujourd'hui la classe politique française pour dire, mais attention, il y a des pays qui sont encore en colonie, même si elles portent le nom de département.
Luc Reynette, itinéraire d'un indépendantiste guadeloupéen.
Nous sommes, nous Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, encore sous une dépendance totale de la France, alors que nos voisins de la Caraïbe, Sainte-Lucie, Barbade, Trinidad, anciennes colonies britanniques, sont indépendantes ou bien ont un gouvernement autonome. Aujourd'hui, nous sommes incapables de décider pour nous-mêmes sans que Paris ne décide à notre place. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, une majorité de Guadeloupéens est d'accord pour l'indépendance. Ce serait mentir. Mais en tout cas, une majorité de Guadeloupéens est consciente que nous allons dans le mur, que le chômage et la délinquance qui l'accompagnent ne font que s'aggraver. Nous souhaitons demain avoir des relations de coopération avec la France, avec l'Europe, mais nous ne voulons pas être des sujets français.
Et vous pensez que vous êtes prêts ?
Cette question me rappelle la question qu'on posait à l'époque, est-ce que les esclaves sont prêts pour être libres? Je dis, un esclave est toujours prêt pour être libre, un peuple est toujours prêt à se diriger.
Nous avons rencontré Luc Reynette au printemps 2015, chez lui, à Pointe-à-Pitre, la veille de l'inauguration du Memorial Act par François Hollande. Alors qu'il fait partie de ceux qui sont à l'origine de ce centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage, il a boycotté, comme prévu, la cérémonie présidentielle. Parce que d'après lui, la France doit demander pardon pour les crimes de l'esclavage et s'engager en faveur de réparations financières. Figure de la tendance dure de l'indépendantisme guadeloupéen, ayant commis dans le passé nombre d'attentats sur l'île et à Paris, Luc Reynette a aujourd'hui changé de stratégie. Il reste cependant campé sur ses positions d'antan. Il réclame la décolonisation et la reconnaissance du peuple guadeloupéen. Depuis la loi de 1946, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane sont considérés comme des départements français d'outre-mer. En Guadeloupe, les premiers troubles indépendantistes se font sentir au début des années 60. Quelques années plus tard, dans un contexte de décolonisation et de réveil du tiers-monde, le premier parti ouvertement indépendantiste est créé. Le GONG, groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, trouve son origine au sein de la communauté étudiante en métropole. Cependant, au printemps 1964, le général de Gaulle, qui effectue un second voyage officiel dans les Antilles françaises, est accueilli par une foule enthousiaste.
Tournons-nous d'abord vers Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe, donc. Il est 7h et la journée qui commence dans un département ensoleillé, Paul-Jean-France.
Oui, un département même très ensoleillé, il faisait une chaleur dure. On a connu les petites allocutions des maires qui président ici aux destinées de Petit-Bourg ou Sainte-Marie, Bourbère ou Goyave. On a entendu les réponses du président, on a vu des arcs de triomphe décorés de guirlandes tricolores. Et sur la route sinueuse qui relie Pointe-à-Pitre à Basse-Terre, Chaque arrêt voyait bien sûr la ruée des enfants vêtus de blanc. Le général de Gaulle était visiblement ému et pris par le charme des îles.
Mes chers compatriotes de basse terre, quand je viens vous voir, ce n'est pas la première fois. On ne sait jamais, c'est peut-être bien la dernière. Quand je viens vous voir, sachez-le, je suis toujours profondément ému. D'abord parce que sur ce sol, dès le moment où la France était en danger de mort et où quelques-uns combattaient pour la tirer d'affaire, sur ce sol, tout de suite, et au fur et à mesure que le temps passait, se sont levées les espérances et les concours. Comment voulez-vous que je l'oublie? Ensuite, je suis ému de vous voir, car chaque fois, oh bien sûr, il y a toujours, comme nous sommes Français, quelques distractions de l'un ou de l'autre, mais dans notre ensemble, dans notre masse française ici, chaque fois que je m'y trouve, je rencontre ce que j'ai rencontré aujourd'hui et ce que je vois ce soir, c'est-à-dire l'unité nationale, la volonté d'être un Français et de le rouler.
L'Ukrainette, vous vous dites, vous êtes indépendantiste, patriote. Depuis l'âge de 10, 12 ans, vous l'avez souvent dit au cours d'interviews. Et c'est pas anodin, 10, 12 ans, parce que vous dites aussi souvent, j'ai vécu l'indépendance de l'Algérie en 62, donc vous aviez 12 ans, vous avez aujourd'hui 65 ans. Et ça vous a formé d'une certaine manière à cette problématique de l'indépendance. Alors est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler pour commencer voilà, de votre enfance, peut-être de votre milieu familial également? Et qu'est-ce qui vous mène dès l'âge assez jeune, 10-12 ans, à vous penser, enfin, même si c'est rétroactif, indépendantiste?
C'est même pas rétroactif, hein. Je dirais que c'était immédiat dans la mesure où à 10 ans, j'ai écrit mon premier poème qui s'appelait « L'indépendance ». Dans lequel je disais qu'un beau jour, je me réveille, la Guadeloupe est indépendante, je vais dans la rue et tout le monde est en liesse. Et c'est la liesse populaire. Donc c'est un poème qui est apparu dans le Patriote Guadeloupéen, le journal des étudiants guadeloupéens de Bordeaux. Pourquoi 10 ans? C'est vrai que c'est atypique, puisqu'à 10 ans, on passe à autre chose qu'à l'indépendance. Mais très tôt, peut-être 2 ans avant, j'ai été très très choqué par ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment le Ku Klux Klan. Et j'ai pris conscience très tôt que j'étais noir, que je faisais partie, je dirais, d'un monde qui était, maltraité, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans mon propre pays. Et j'ai pris conscience très tôt de qui j'étais. Donc la question de mon identité s'est posée très tôt. Et depuis l'âge de 10 ans à l'âge d'aujourd'hui, donc 55 ans après, je n'ai pas changé. Et je pense qu'il y a des combats qui valent la peine, c'est celui, effectivement, de la liberté, tout simplement. Et de même que les Français sont battus contre l'occupation allemande, et bien je me bats contre l'occupation du colonisme français de mon pays. Et je crois que c'est une chose qui est fondamentale. Je ne me sens pas aujourd'hui pas un homme libre. Aujourd'hui, je vous parle.
Alors, quel est votre milieu familial, vous, l'Ukrainette? Est-ce que vos parents sont déjà militants, indépendantistes?
Pas du tout. Alors, je suis fils d'enseignant. Mon père et ma mère étaient enseignants. Mon père était directeur d'école. Et c'est donc, je dirais, mes lectures et puis l'écoute de la radio, parce qu'à l'époque, on ne sentait pas de télévision, chez nous en tout cas. Et donc, c'est par rapport aux lectures et puis surtout à ce que j'entendais qui se passait, notamment aux États-Unis. J'ai découvert l'Afrique du Sud après, mais surtout les États-Unis qui étaient plus proches de nous, les méfaits du Ku Klux Klan, les enfants, enfin les gens qui étaient brûlés dans les églises, les pendaisons, etc. Ça m'a révolté, et ça m'a interpellé. Je ne vous cache pas que jusqu'à 10 ans, j'allais à l'église, enfin j'allais au catéchisme. J'ai arrêté, sans demander l'avis de mes parents, de seul coup j'ai dit, Dieu ne peut pas exister, qu'il tolère cela. Donc ma rupture avec l'Église date de 1960, et ça n'a pas changé aujourd'hui, surtout qu'après j'ai appris quand même que c'est le pape Nicolas V qui en 1454, le 8 janvier, a pris une bulle, donc la bulle papale, autorisant l'esclavage, notamment, et cet accord, cette autorisation, au roi Alfonso du Portugal. C'est tout par-delà, c'est l'Église quand même qui est la plus grande responsabilité, je dirais, au niveau moral, en tout cas. 1962, mes parents vont en Algérie. Et nous allons passer 2 ans dans une... Alors, mes parents, c'est spécial, je dirais mon père, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on ne l'aurait pas fait. Une Algérie qui est encore bouleversée par la fin de la guerre. Hein. Et j'ai vu, effectivement, des maisons incendiées, des voitures également incendiées, des coups de feu, etc. À 12 ans, on découvre à Alger une fin de guerre, si je peux dire. Une fin de guerre. Il y a aussi des Guadeloupéens qui se sont engagés aux côtés des Algériens qui ont déserté l'armée française et qui nous rendent visite. Hein. Et donc, ça aussi, ça me permet effectivement d'avancer dans ma réflexion. Et je vis les premiers jours d'indépendance d'un pays. Et quelque part, je dis, mais nous avons, nous aussi, un parcours colonial. Nous sommes encore en pleine colonisation. L'Algérie a été département français. Et je peux vous dire que depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai cessé d'être proche donc, des combats pour la liberté, aussi bien en Afrique, qu'en Asie, qu'en Amérique. Partout, le tiers-monde se bat pour sa libération. C'était l'Algérie, ça aussi, après l'Indochine. Je me suis senti concerné. Et je suis de ceux qui pensent que le combat que nous menons est difficile, parce que nous n'avons pas la même colonisation que l'Algérie, par exemple. Pourquoi ? Parce que, étant un petit pays, la France a eu plus de facilité en 1946 à faire de nos départements, en prétendant qu'il n'y a plus à décoloniser, puisque maintenant nous sommes départements à l'égal du département français. Et beaucoup de gens, effectivement, sont entrés dans une démarche d'assimilation. La France a aliéné aussi les Guadeloupéens en leur faisant croire que bon, nos ancêtres étaient les Gaulois. Nous avons appris ça à l'école. On nous faisait raconter, chanter nos ancêtres les Gaulois. Ce sont les propres enseignants guadeloupéens qui nous enseignaient cela. Et c'est vrai que cette aliénation est encore présente dans l'esprit de beaucoup de Guadeloupéens qui n'ont pas réussi à se détacher de cela. Ils n'ont pas compris également que dans les guerres 14-18, dans les guerres 39-45, on a été envoyés en première ligne comme les Africains, la chair à canon. Et beaucoup aujourd'hui sont fiers d'avoir défendu la France, mais ils ne savaient même pas pourquoi ils se battaient, contre qui. On leur disait, l'ennemi est en face, allez-y. Oui. Et nous, bien entendu, nous disons que nous sommes distincts du peuple français, nous respectons le peuple français, nous demandons en retour qu'il nous respecte, nous sommes les derniers colonisés, nos voisins sont aujourd'hui libres, la plupart, et aujourd'hui, ils estiment que ça fait partie intégrante de leur stratégie de développement que d'inclure les réparations dans les projets économiques et sociaux.
Je voulais signaler au début de ce journal graves incidents en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre.
27 mai 1967.
Un mois après les incidents de Basse-Terre, ceux de Pointe-à-Pitre, qui semblent plus violents, confirment la profonde dégradation politique et sociale dans ce département. Nous avons pu joindre l'un de nos correspondants à Fort-de-France, à la Martinique, Marcel Boza.
En Guadeloupe, un certain nombre d'incidents assez graves se sont produits durant cette nuit. Ces incidents, qui auraient débuté en fin de soirée, auraient éclaté à la suite d'une grève de certaines catégories de personnel du bâtiment. Erreurs sérieuses ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre. Cette agitation, qui se serait limitée à certains quartiers de Pointe-à-Pitre, aurait entraîné le pillage de quelques magasins. En l'absence de renseignements précis, les communications restant très difficiles avec la Guadeloupe, il est impossible d'établir un bilan exact. Il est vraisemblable que la manifestation a fait un certain nombre de blessés graves. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu quelques tués, mais toute évaluation pessimiste serait pour l'instant prématurée.
Alors, en 67, ici, il y a des événements très graves, puisqu'il y a, selon M. Lemoine, qui était ministre des colonies, 87 morts, paraît-il, mais on attend les chiffres. Hein.
Alors expliquez, mai 67, c'est une grève ouvrière du bâtiment qui est réprimée très durement dans le sang.
Jusqu'à présent, c'est un mystère. Le nombre de morts varie d'un témoin à l'autre. M. Lemoine, qui était ministre à l'époque, se rappelle les dom-tom, à un beau jour, en 85, dit 87 morts. Nous pensons qu'il n'a pas tiré ça de son chapeau, qu'il a eu un document officiel. Donc on attend 2017 parce que ça fait 50 ans. Et à ce moment-là, l'État français sera obligé d'ouvrir ses archives pour dire le nombre de morts exact. Mais ce qui est évident, c'est que la plupart des morts, la quasi-totalité des morts, ce sont des civils. Ce sont des gens sur lesquels les kipis rouges, donc les gendarmes, ont tiré comme sur des lapins. Et c'est vrai que ça crée un traumatisme énorme. Alors, quand moi j'arrive en 68... Il y a les événements qui se passent en France, je les rate en 68, je suis ici, mais en 67, je suis en France. Donc quelque part, j'ai raté les deux grandes manifestations historiques, celle de 68 en France et 67 en Guadeloupe. Et je dois vous avouer que personnellement, avec d'autres, c'est de ce moment-là que mon engagement se radicalise et que je dis qu'il faut absolument que Ron beaucoup beaucoup, parce que finalement les forces françaises, les forces coloniales ne comprennent que ce langage, celui donc de la violence.
Les véritables partisans de l'indépendance se trouvent en Guadeloupe, où la personnalité d'un Aimé Césaire n'est pas là pour freiner les jeunes révoltés.
Mai 1971.
Michel Rovellas, un peintre, explique comment ses amis et lui entendent s'y prendre pour brûler les étapes vers cette indépendance.
L'utilisation de la lutte de classe, c'est-à-dire le regroupement, l'organisation des travailleurs sur les chantiers, dans les champs, dans les usines, dans les bureaux, partout. Et enfin, l'organisation de meetings, de défilés, de rassemblements, tout ce qui contribue à augmenter la conscience de classe des travailleurs.
Quelques années après la création en 1963 du GONG, groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, partisans d'une révolution démocratique et populaire, les militants indépendantistes investissent les syndicats. L'Union générale des travailleurs agricoles de Guadeloupe, puis l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, rejettent ouvertement le cadre de la République française et mettent en avant l'idée d'une personnalité guadeloupéenne. À partir de 1978, c'est l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe qui tente de porter le combat sur le terrain politique. Au sein de cette mouvance, se détache un petit groupe qui prône l'action violente. Luc Reynette est le chef de file de ce groupe de libération armée, le GLA.
France Inter, jeudi 18 septembre, je vous souhaite une bonne journée à tous. Le journal avec Thierry Bourgeon. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Septembre 1980.
Guadeloupe, une série d'attentats faits un mort et des dégâts importants, à l'origine sans doute un mystérieux groupe de libération armée dont nous parlera Max Moineau. Un artificier militaire père de deux enfants tués par l'explosion d'une bombe, c'est la conséquence la plus dramatique de la série d'attentats en Guadeloupe qui a provoqué d'importants dégâts sur l'aéroport du Rézé, où deux engins explosifs avaient été placés sur les ailes d'un Boeing d'Air France, mais également au port de plaisance de la Marina, où des bateaux ont été endommagés. Derrière cette flambée terroriste, il y a sans doute ce groupement de libération armée, une mystérieuse organisation dont nous parle Max Moineau de FR3 Guadeloupe.
Au plan politique, on peut difficilement s'empêcher de penser au GLA, qui s'est déjà signalé à 4 reprises cette année, d'autant enfin que le mois dernier, plusieurs kilos d'explosifs avaient été volés à une grosse société de travaux publics. Ceci peut-il expliquer cela? La question reste posée. En fait, on s'interroge sur la nature de cette organisation qui s'était fait connaître il y a de cela quelques mois en rendant public un communiqué dans lequel elle menaçait de violence physique tous les Blancs qui n'auraient pas quitté la Guadeloupe avant le 31 décembre 80. Depuis l'incendie au studio de FR3, le GLA semble vouloir mettre à exécution ces menaces, les attentats contre le patron de cette grande surface, contre la gendarmerie de Sainte-Anne et celui d'aujourd'hui. Cette organisation que renseignements généraux et services du SDEC n'ont jamais pu localiser a déjà fait savoir que sa prochaine victime serait un gros usinier de la région, en guise de représailles sans doute après les fermetures récentes de 2 unités sucrières, Blanchette et Darboussier.
C'est vrai que le GLA changeait un peu la donne, parce que jusqu'à présent, les organisations, les militants réclamaient l'indépendance, mais ne se donnaient pas les moyens de changement radical. Et que l'analyse menée par les membres du GLA à l'époque de dire que bon, mais pour qu'on nous prenne au sérieux, il faut frapper là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'on est respecté lorsqu'on est capable de toucher l'adversaire ou l'ennemi. Donc le GLA est la première manifestation armée, effectivement, contre les symboles de la présence française en Guadeloupe. Alors je vous dis une chose, c'est que je ne ferai pas de déclaration inédite. On m'a dit que j'étais le responsable du GLA, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que c'est vrai non plus. Ce qui est certain, c'est que j'ai été avec d'autres amnistiés, je pense que c'était en juillet 81, un peu après l'arrivée de M. Mitterrand au pouvoir en mai. Et donc, après cette amnistie, j'ai repris mon travail comme d'autres. Et puis bon, nous avons pensé qu'il fallait maintenant porter le combat sur les différents territoires, comme je vous l'ai dit, Martinique, Guyane, Guadeloupe et bien sûr la France. D'où la création, je dirais, pratiquement à Paris, il faut le dire, c'est la seule information que je peux donner, où se sont retrouvés des indépendantistes de ces pays, Martinique, Guyane, Guadeloupe, et mise en place une stratégie visant à frapper presque en même temps effectivement les intérêts français dans les dernières colonies françaises. Ce qui a donné effectivement l'ARC avec une série d'attentats, mais c'est vrai qu'ici en Guadeloupe, c'était plus dense qu'ailleurs, pour la bonne raison que le point de départ, c'était la Guadeloupe.
Des renforts de police et de gendarmerie ont été envoyés à la Guadeloupe après les attentats d'hier. Le plus important d'entre eux s'est produit devant la préfecture de Basse-Terre. Bilan, une vingtaine de blessés. Et ce soir encore, la tension reste très vive.
Novembre 1983.
Serge Misray.
Le plus grave attentat a été commis à Basse-Terre. Devant la préfecture, sur le parking, les terroristes ont déposé une bombe sous une voiture. La bombe a explosé au moment où les employés prenaient leur service. Bilan, 20 blessés, dont 4 grièvement. Dégâts matériels ailleurs, à Pointe-à-Pitre notamment, où les locaux de Radio Caraïbes ont été détruits.
Il y a longtemps que je m'élève contre le processus de violence qui est en train de se dégrader en Guadeloupe.
Lucette Michaud-Chevry, présidente du Conseil général de la Guadeloupe.
Et je constate aujourd'hui un phénomène nouveau. On a voulu manifestement tuer parce que la pose d'une bombe qui a explosé à la préfecture à 9h du matin alors que des travailleurs se trouvaient à leur emploi est manifestement une volonté délibérée pour tuer.
Madame Michaud-Chevry s'est adressée au président de la République pour dénoncer ces attentats. Elle a aussi appelé la population à manifester contre ces auteurs. Des auteurs qui pourraient bien être, selon les policiers, des membres de l'Alliance révolutionnaire Caraïbes, une organisation qui a déjà signé tous les attentats commis outre-mer et en métropole depuis mai dernier.
Danick Zandronis, militant indépendantiste. 17 février 1984.
L'ARC, c'est l'Alliance révolutionnaire Caraïbes. C'est une organisation qui est apparue, je crois qu'il y a quelques mois, qui s'est manifestée par des attentats et des revendications d'attentats. On n'en sait pas plus pour l'instant. Cela dit, la thèse de la main de l'étranger, c'est une thèse qui revient souvent. C'est la Libye, c'est Cuba, c'est Moscou. Je vous dis que les gens qui ont les relations les plus étroites ici avec Cuba et Moscou, ce sont les communistes. Or, les communistes, ce sont des légalistes.
Alors, vous dites que les indépendantistes ont en général peu le temps de s'exprimer ou peu l'occasion. Alors, supposons que l'indépendance soit arrivée en Guadeloupe. Est-ce que vous avez des propositions, je dirais, pour l'économie de la Guadeloupe ?
Alors là, c'est la question bateau. Écoutez, si on avait posé la question aux Algériens, aux gens du MPLA en Angola, ou aux Chinois, n'importe qui, effectivement, on a toujours un programme. Mais un programme, ça ne reste qu'un programme de propagande. C'est un programme qui permet de rassembler des gens. Effectivement, bon, on pourrait vous dire on veut nationaliser X, Y ou Z, mais en réalité, ça ne servirait à rien. En ce sens qu'une révolution ici peut être un phénomène violent, ça peut être autre chose, ça peut être un phénomène, bon, ça peut être des négociations, on ne sait pas. Donc, effectivement, il y a un programme, mais un programme dans une situation de crise, je ne pense pas que je puisse répondre à votre question de façon systématique comme ça.
En tout cas, est-ce que vous avez le courage de dire aux gens que l'après-indépendance, ce ne sera pas quelque chose de facile ?
Mais je crois que les gens savent très bien que nous vivons au-dessus de nos moyens. Un Guadeloupéen aujourd'hui qui gagne, disons, 13 000 francs aujourd'hui, c'est très bien qu'après l'indépendance, il ne pourra pas et il ne devra pas gagner 13 000 francs. Le problème, c'est que la majorité des gens ici sont dans la misère. La petite minorité des gens qui sont à l'aise, ce sont ou bien les grands bourgeois, les béquets, ou alors les petits, les moyens bourgeois. Mais en réalité, le peuple sait très bien, et il a trimé depuis des siècles, c'est très bien que l'indépendance, ça n'a pas de prix. Et c'est vrai qu'on dit aux gens, demain, ce sera dur, mais on sera libre.
Bon, est-ce que tout de même, on peut dire objectivement que la majorité des Guadeloupéens sont pauvres ? Quand on sait qu'il y a quand même 80% de la population active dans le tertiaire, dont la moitié des fonctionnaires.
Non, mais le problème est mal posé. En réalité, je pourrais répondre que tous les Guadeloupéens sont pauvres une fois que l'assistance cesse. Parce que les fonctionnaires, ils vivent parce qu'on leur injecte chaque année un certain nombre de millions de francs, ou même de milliards. On a en face de nous, il suffit de jeter un coup d'œil, une caisse de sécurité sociale en face, là, avec au moins une dizaine d'étages, qui n'a rien à envier à n'importe laquelle des caisses de sécurité sociale de France. Seulement, le problème, c'est qu'on est dans le tiers-monde ici. Et une fois que les Français auront enlevé la machine à billets, c'est vrai que les gens redeviendront au niveau où ils devraient être réellement. Et je crois que le problème de la Guadeloupe, si vous avez l'occasion de rencontrer des économistes, ils vous diront que le problème de la Guadeloupe, c'est un problème de pays artificiel basé sur rien. Donc, quand on dit que les Guadeloupéens sont bien, vivent bien, c'est vrai apparemment, mais en réalité, nous sommes au niveau des gens de la Caraïbe.
La stratégie des indépendantistes maintenant, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera les bombes ou ce sera l'explication, comme vous dites ?
Je ne suis pas le porte-parole de l'ARC. Je ne peux pas répondre à cette question directement. Ce que je peux dire, c'est que nous vivons dans une situation, une société qui est bloquée. Le gouvernement français sait très bien qu'il ne pourra pas pendant 200 ans, 300 ou 4 siècles encore, conserver les Antilles. Seulement, il se voile la face. Mais en réalité, il se pose un problème ici, un problème de dignité, c'est-à-dire que les gens en ont marre de ne pas être eux-mêmes, en ont marre culturellement, de ne pas décider pour eux-mêmes, économiquement, de ne pas décider pour eux-mêmes. Mais je ne crois pas qu'aucun Guadeloupéen aujourd'hui soit un partisan acharné de la violence. La violence, elle existe dans le système colonial. La colonisation, c'est un système violent, Sartre l'a dit dans ses bouquins, tout le monde le dit, Fanon l'a expliqué aussi. Mais je crois que nous n'aspirons qu'à vivre en paix et pacifiquement dans notre région naturelle qui est la Caraïbe. Nous ne sommes pas européens.
Avec le recul, il n'y avait rien à regretter. Ce qui s'est passé pendant ces années fait partie de l'histoire de la Guadeloupe, de la décolonisation. Et que si en termes stratégiques, certains n'ont pas pensé que ça a été quelque chose de positif, je n'ai pas la même opinion. Il faut savoir, par exemple, qu'au mois de mai 1984, nous avons quand même réussi à mettre en place des négociations avec l'État français. Hein, c'est plus un secret, c'est dans les livres. Hein. C'est M. Christian Chariot-Bounazel qui était le contact. Hein.
J'ai rencontré.
Via Roland Dumas, vous êtes bien renseigné.
Qui était votre avocat.
Qui était aussi notre avocat. Mais enfin, qui était surtout ministre des Affaires étrangères, je crois, à l'époque. Et donc, ces négociations étaient quand même en bonne voie. Ce qui a provoqué la fin de ces négociations, c'est la mort d'un militant de l'UPLG. C'était en juillet, fin juillet, je crois, c'est 24 juillet 1984. Où effectivement, quatre militants meurent avec leur bombe. Et il y a eu, à ce moment-là, incompréhension du côté français. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont pensé que c'était des membres de l'ARC qui étaient opposés à la démarche de négociation que j'avais mise en place avec des camarades. Et donc, ça a constitué la fin des négociations. Voilà. Donc, on a eu une occasion ratée, je peux dire.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, l'Ukraine, enfin, tout ça se fait évidemment dans le secret. Il y a quand même des contacts qui sont pris aussi avec la Fédération socialiste guadeloupéenne, le Parti communiste, alors qui vous soutiennent, qui ne sont pas favorables à des actions terroristes, etc. Mais en tous les cas, il y a une volonté de discussion, on va dire, avec les partis de gauche guadeloupéens. L'État français, c'est la gauche qui est au pouvoir, ça va changer aussi après, mais est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de ces prémices de discussion qui, comme vous le disiez, vont échouer ?
Il y a deux niveaux. Quand on parle des socialistes, il y a M. Larifla, par exemple, qui était donc président du Conseil général et socialiste, et qui a aussi, je dirais, montré sa bonne volonté pour trouver une issue. Maintenant, quand on parle des communistes, c'est différent. Lorsqu'il s'est agi maintenant de mettre en place une table ronde, parce que c'était ça l'objectif de notre combat, comme ça avait été fait pour les Kanaks avec une table ronde à Neuville-les-Roches. Et donc, sur cet exemple, nous souhaitions que les différentes organisations, que ce soit le Parti communiste, l'UPLG aussi, qui a perdu ses militants, dont j'ai dit tout à l'heure, puissent être avec nous autour de cette table, parce qu'on ne s'est jamais battu pour nous seuls. Simplement, tout le monde n'a pas accepté, si vous voulez, ce principe de rencontre. Par contre, les communistes ont été favorables à ce genre de démarche. Vous voyez les socialistes guadeloupéens, eux, ils ne pensaient pas, si vous voulez, de façon intrinsèque, puisqu'ils dépendaient des socialistes français. Tandis que les communistes guadeloupéens, le Parti communiste, il est autonome, il est indépendant. On n'a même pas envisagé que les socialistes guadeloupéens y participent eux-mêmes en tant que tels, puisqu'ils ne sont pas pour effectivement, l'évolution statutaire jusqu'à maintenant. Ils sont plutôt pour le statu quo.
Terrorisme toujours, les indépendantistes antillais sont maintenant hors la loi.
3 mai 1984.
Le Conseil des ministres a annoncé ce matin la dissolution de l'ARC, l'Alliance révolutionnaire caraïbe, qui venait de revendiquer la série d'attentats commises la semaine dernière en Guadeloupe. L'ARC militait pour l'indépendance des Antilles françaises. Le gouvernement estime que ce mouvement portait atteinte à l'intégrité du territoire national. C'est pour les mêmes raisons que le groupe terroriste Corse FLNC avait lui aussi été dissous. Même motif, même punition. Désormais aux Antilles, toute personne se réclamant de l'ex-ARC serait automatiquement poursuivie pour reconstitution de ligue dissoute. Cette loi, qui date de 1936, est toujours appliquée avec vigueur. Une fois n'est pas coutume, l'opposition approuve le gouvernement. Écoutez la réaction de la présidente du Conseil général de la Guadeloupe, Mme Michaud-Chevry, qui est également proche de l'UDF.
Le gouvernement a raison. Les Guadeloupéens, à 95%, ainsi que les Martiniquais et Guyanais, entendent demeurer dans le cadre de la nation française et respecter le statut départemental.
Alors vous attendez quoi exactement de cette dissolution ?
Cette dissolution tranquillise la population qui s'interrogeait. Cette position du Conseil de ministres renforce la présence française dans les départements d'outre-mer.
Nous nous évadons.
Vous êtes arrêté ?
En novembre 1984, et j'étais passé Mahonnage en novembre 83. Un an avant, j'étais en Mahonnage. Un Mahonnage, c'est important pour nous, ce n'est pas être un fugitif. Un fugitif, c'est quelqu'un qui fuit. Un Mahon, c'est quelqu'un qui se bat. Et nous avons continué à nous battre tout en nous fondant dans la population. Nous avons bénéficié de réseaux, de soutien, et on a continué à se battre. Sachant effectivement qu'à tout moment, nous pouvions disparaître. Donc après cette évasion, j'ai tenu à sortir un document, une lettre ouverte, où je parle des négociations, mais aussi des contacts que j'ai eu avec M. Larifla. C'était important, au cas où on serait supprimé, que les gens sachent les choses. Et il est important pour l'histoire de laisser des traces. Alors c'est sûr que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et même les opposants aux socialistes, enfin la droite a dit oui, les socialistes négocient avec les terroristes, bien que nous, on ne se reconnaît pas comme terroristes. Hein. Nous sommes des militants, nous sommes des combattants, nous battons effectivement pour la prospérité de notre pays.
L'indépendance association a-t-elle été évoquée au plus haut niveau à propos de la Guadeloupe ?
Juillet 1985.
À en croire une déclaration authentifiée de Luc Reynette, leader du MPGI, le mouvement pour une Guadeloupe indépendante, qui est, semble-t-il, la façade légale de l'organisation terroriste ARC, un avocat, maître Charrière-Bournazel, l'aurait contacté et lui aurait indiqué le 21 juillet 84 que les revendications des indépendantistes étaient acceptées dans leurs principes par le gouvernement français, qui cependant avait une préférence pour le statut d'indépendance association. Un statut que l'on aurait donc évoqué bien avant qu'il ne soit proposé pour la Nouvelle-Calédonie. Luc Reynette était à l'époque en cavale, recherché pour différentes actions terroristes. À la fin de l'année dernière, au moment même où éclataient les événements de Nouvelle-Calédonie, les négociations étaient rompues et peu après, hasard, dit la police, peu après, Luc Reynette était arrêté avant d'être condamné au début de cette année à la suite de plusieurs procès à un total de 19 années de prison. Tout récemment, Luc Reynette s'est évadé avec trois de ses amis de la prison de Basse-Terre. Ces révélations d'aujourd'hui ont donc comme un goût d'amertume et de vengeance. Dans l'opposition, des voix s'élèvent bien sûr après ces révélations. Jacques Toubon a vivement interpellé le gouvernement. Les propos de Jacques Toubon recueillis au micro inter par Jean-Michel Blier.
Selon le leader indépendantiste de la Guadeloupe, qui est actuellement en fuite après s'être évadé de prison, ce leader indépendantiste aurait eu des contacts en 1984 avec des représentants du gouvernement en vue de négocier l'indépendance de la Guadeloupe.
En octobre 1984, Georges Faisan, enseignant, donne un coup de machette à l'un de ses collègues accusé d'avoir donné un coup de pied colonial à un élève noir. Emprisonné, il entame une grève de la faim qui provoque une mobilisation de la population. Cette action paralyse l'île et suscite des divisions dans la société.
En Guadeloupe, l'économie a déjà subi un coup sévère. Le témoignage d'un planteur au micro de notre envoyé spécial en Guadeloupe, Jacques Expert.
28 juillet 1985.
Actuellement, le chargement de la banane est bloqué par les barrages et le fait que les employés du port ne travaillent pas.
Vous, personnellement, vous avez perdu combien ?
En comptant tous les frais, aux environs de 500 000 francs.
Vous êtes contre les indépendantistes ?
Je ne suis pas contre les indépendantistes, je suis contre la chienlit. De quel droit, pour une personne, doit-on moquer toute une population ? D'autre part, je suis persuadé, je suis certain, que la majorité des Guadeloupéens ne suivent pas le mouvement. Il suffit qu'on fasse ce qu'on n'a pas fait actuellement, c'est que tous les gens qui sont outrés se réunissent quelque part un jour, comme font les indépendantistes, et qu'on s'organise et qu'on commence nous aussi à bloquer les routes. On peut faire plein d'actions.
En Guadeloupe, la justice a mis de l'eau dans son vin. Après trois quarts d'heure de réflexion seulement, les magistrats de Basse-Terre ont ordonné la mise en liberté provisoire immédiate du militant indépendantiste Georges Faisan, qui avait été condamné à 3 ans de prison pour coups et blessures et qui faisait la grève de la faim depuis près de 2 mois dans sa cellule de Fresnes.
29 juillet 1985.
Tous les partis politiques, quelle que soit leur étiquette, et toutes les organisations locales la réclamaient. Cette mesure permettra sans doute le retour au calme dans l'archipel. Elle a été saluée par une explosion de joie sur les barricades tenues par les indépendantistes, des barricades qui ont aussitôt été levées. À Pointe-à-Pitre, le reportage de notre envoyé spécial Jacques Expert.
L'hymne guadeloupéen chanté en créole et qui se termine par ces mots « Sauvons le pays et gagnons notre liberté » retentit comme un chant de victoire. Cette centaine de manifestants qui tient le barrage de l'hôpital vient d'apprendre la décision du tribunal de Basse-Terre. On applaudit, on se congratule, on a gagné. Aussitôt un responsable prend la parole, il donne l'ordre de lever les barrages, les manifestants se mettent aussitôt au travail.
On débarque tout de suite là.
Vous enlevez les voitures, vous enlevez les barrages.
On les débarque tout de suite. On est des gens sérieux et responsables.
Alors là, c'est une grosse voiture, là, c'est quoi ?
On va s'y mettre ensemble, on va la faire sortir, là.
Attention à vous. Une demi-heure plus tard, devant l'hôpital, la voie est dégagée, comme elle l'est partout désormais sur le département. La population, elle aussi, désirait l'apaisement. Les boutiques de Pointe-à-Pitre sont restées fermées toute la matinée. Visiblement, ces gens-là ne s'intéressent guère à Georges Faisan. Ils veulent seulement reprendre une vie normale, qu'on le relâche, disait-il, et qu'on en finisse.
Après les événements de Calédonie, ceux de Guadeloupe marquent...
Jacques Chirac.
Le mépris.
30 juillet 1985.
Dans lequel le gouvernement actuel de la France tient les principes de la démocratie, de la République, des intérêts de la France. En Guadeloupe, une majorité immense est profondément attachée à notre pays. Une minorité d'agitateurs, une infime minorité d'agitateurs, vient d'imposer sa loi au gouvernement de la République. Ce n'est pas acceptable.
L'Ukrainette s'est donc évadée ce matin de la prison de Basse-Terre avec trois de ses co-détenus après s'être emparé des clés de deux gardiens qui ont été légèrement blessés. Évasion longuement préparée, semble-t-il, et avec des complicités, pensent les enquêteurs. L'Ukrainette, recherché pour sa participation à des attentats, était resté introuvable plusieurs mois durant avant d'être arrêté par hasard avec des armes de gros calibre dans sa voiture. Aucun attentat n'avait été enregistré en Guadeloupe depuis mars dernier, mais au total, en 4 ans, plus de 100 explosions avaient fait 8 morts, dont 4 militants indépendantistes tués en manipulant leurs propres bombes.
Donc cette évasion a lieu effectivement le 16 juillet 1985. Nous sommes à 4 à nous évader. On s'évade nous-mêmes avec nos propres moyens. Et pendant 2 ans, donc de juin 85 à juillet 87, on continue à se battre également par tous les moyens possibles. Lorsque la pression devient maintenant insupportable, nous décidons de quitter la Guadeloupe le 19 juillet 1985, par voie maritime, et on se rend donc à l'île de la Dominique. Et de là, maintenant, nous partons en avion pour le Guyana. Et là, malheureusement, alors c'est vrai que, pour bien comprendre les choses, nous ne sommes pas partis comme ça à l'aventure. Nous avions dépêché, je peux le dire aujourd'hui, hein, c'est le pilote qui est mort, hein, c'est Georges Marichaud, avec une lettre que j'avais moi-même rédigée, à destination donc du président du Guyana. Et nous avions une réponse favorable. Et c'est à partir de cette réponse favorable où l'asile politique nous était promis que nous avons préparé notre départ pour l'Amérique du Sud avec pour objectif de mettre en place déjà, je dis, une sorte de cellule de gouvernement provisoire avec d'autres camarades qui devraient nous rejoindre par la suite. Simplement, lorsque nous sommes arrivés au Guyana, après une heure d'attente, on n'a toujours personne qui vient nous rechercher, on avait le nom de l'interlocuteur, jusqu'au moment où quelqu'un vient nous dire « vous devez quitter le territoire », sans explication. Et c'est vrai que c'est un peu la stupeur, alors que nous, on avait déjà élaboré des plans pour notre organisation en termes de séjour, en termes de combat politique. Eh bien, il nous faut très vite partir, et nous décidons de partir en direction du Suriname. Parce qu'à l'époque, le Suriname en voulait beaucoup à la France, parce qu'il y avait donc une sorte de guérilla qui se faisait, qui harcelait les troupes surinamaises, et après se réfugiait du côté français. Et donc le gouvernement souvent critiquait la complaisance de la France. Alors on dit, bon... Peut-être que les ennemis de nos ennemis sont peut-être nos amis. Donc on a fait une demande d'asile quand nous sommes arrivés au Suriname. On nous a bien reçus. Nous avons passé une partie de la nuit à l'aéroport. Et le reste de la nuit, nous étions quatre hein, à l'époque. Henri Bernard qui est mort, Henri Amédien qui est vivant, et Michel Fabre, c'est une Française qui nous avait aidés, qui est actuellement dans le sud de la France. Et on a passé la nuit dans une caserne, dans des conditions très difficiles. Et le lendemain matin, on nous dit que le gouvernement qui s'est réuni dans la nuit, finalement, ne peut pas accepter notre demande d'asile et une demande de quitter le plus vite possible le Suriname. N'empêche que avant qu'on démarre, ils nous demandent où nous allons, quelle est notre destination. Donc nous leur donnons une destination bidon, hein, on leur dit qu'on va vers la Barbade, et finalement, en cours de route, on a changé de cap et nous avons été à Saint-Vincent. Mais bien sûr, on a compris que déjà, ils avaient sûrement informé les forces françaises, et au petit matin le lendemain, eh bien, les policiers de Saint-Vincent ont investi l'hôtel. Tout ce que j'ai pu faire, moi, c'est rapidement prendre tous les papiers compromettants, notamment les certificats médicaux qu'on avait, ce qui était obligatoire pour voyager, pour ne pas compromettre des gens en Guadeloupe. Puis on s'est rendu à la police donc de Saint-Vincent. Et dès l'approche donc de l'aéroport, on a vu l'aile de Transal, d'un avion militaire français, on a compris que les Français étaient là. Voilà. Et très rapidement, le premier ministre de l'époque, M. Mitchell, est arrivé, nous avons demandé un avocat, on ne nous a pas donné un avocat, Et très vite, après quelques palabres entre eux, ils nous ont livrés aux gendarmes français qui sont venus nous récupérer avec beaucoup de rudesse. On nous a attachés, on nous a menottés au ridelle de l'avion et on a voyagé quasiment debout entre Saint-Vincent et la Guadeloupe. Voilà, fin de l'histoire, provisoirement.
Madame Lucette Michaud-Chevry, vous êtes, je le rappelle, secrétaire d'État à la francophonie, mais avant tout guadeloupéenne, et c'est à ce titre que vous apparaissez dans notre journal.
22 juillet 1987.
Est-ce que cette arrestation résout le problème du terrorisme en Guadeloupe? Ou bien est-ce que cette poignée de terroristes avait eu le temps de faire quelques émules?
La violence n'a jamais été considérée dans les départements d'outre-mer comme un élément de dialogue. Et l'Ukrainet avait instauré la peur en Guadeloupe. Et je crois qu'effectivement, son arrestation est de nature à mettre fin à une certaine forme de revendication basée sur la haine, basée sur la violence, basée sur l'agressivité, basée sur le racisme et basée surtout par une tentative de haine contre le français de l'Hexagone, contre la métropole.
André Berton.
Madame Michaud-Chevry, vous vous souvenez de l'arrestation, la première arrestation de l'Ukrainet en 1981. Est-ce qu'aujourd'hui, comme en 81, d'un symbole, on ne risque pas de faire un martyr?
Écoutez, je crois qu'on donne beaucoup de poids à M. Reynette. Si M. Reynette considérait qu'il avait une audience en Guadeloupe, si M. Reynette représentait quelque chose, il aurait eu le courage d'affronter le verdict populaire. Or, M. Reynette ne sera pas considéré comme un martyr en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, comme la France, est un état de droit. N'oubliez pas que M. Reynette s'est taché les mains de sang. Cette forme de dialogue, les Guadeloupéens le rejettent. Les Guadeloupéens souhaitent, comme les autres Français de l'Hexagone, bénéficier de dialogue, de développement économique, social et culturel.
Madame la ministre, merci.
Je vous remercie.
Vous évaluez à combien de militants? Et par qui vous êtes influencé? Parce qu'on a pu dire aussi que l'ARC était très influencé par Moscou, par Cuba, voilà.
Alors, je ne pouvais pas vous répondre parce que c'est sûr que pour nous, nous ne sommes pas des anciens combattants. Donc, je ne veux pas parler comme quelqu'un de 14-18 qui parle de sa guerre. Nous sommes encore dans ce combat-là. J'ai 65 ans, mais je suis encore en forme pour continuer le combat. Pas forcément par les mêmes formes, mais les mêmes moyens, mais je suis encore un militant et le but de ma vie reste toujours la libération de mon pays. Je peux vous répondre que plusieurs dizaines de nos militants ont été arrêtés pendant ce temps-là. Donc, ça vaut une idée, puisque ce n'est qu'une partie qui a été arrêtée, sans compter les réseaux de gens qui n'étaient pas forcément des membres de l'ARC et qui nous ont accueillis chez eux. J'ai eu l'occasion d'être dans des familles qui prenaient le risque au quotidien, pendant plusieurs semaines, d'avoir chez eux des militants. Nous n'étions pas rassemblés, nous étions éparpillés, avec un réseau aussi de sympathisants qui nous véhiculaient, qui nous renseignaient, etc. Donc je vous dis qu'une partie non négligeable de la population nous a soutenus. Je ne peux pas en dire plus. Maintenant, concernant l'influence, j'ai presque envie de rire. Pourquoi? Parce qu'on ne s'inspire ni de Mao, ni de Marx, ni de personne, encore moins des Russes, et encore moins des Cubains. Alors, c'est la légende. Est-ce qu'il est inconcevable que des hommes et des femmes puissent, si vous voulez, au nom d'un idéal qu'ils partagent, se soulever contre l'occupation française? On peut avoir, si vous voulez, une idéologie propre, effectivement, à notre situation, à notre histoire. Nous sommes, si vous voulez, dans une filiation avec nos ancêtres. Nous sommes dans un continuum politique. Nous nous revendiquons de 1802, donc des combattants de 1802, parce que je rappelle quand même qu'après 1794, dès 1801, en octobre 1801, il y a eu un gouvernement provisoire guadeloupéen qui a duré 8 mois, d'octobre 1801 à mai 1802. Donc nous avons déjà été nous-mêmes nos propres dirigeants.
En tous les cas, l'Ukrainet, en 89, donc vous êtes de nouveau arrêté en 87, et en 89, oui, vous êtes libéré. Amnistié.
Alors, c'est vrai que je suis le seul militant caribéen, francophone, à avoir eu deux amnisties présidentielles. Bon, si j'étais amnistié deux fois, c'est que quelque part, notre combat, il est juste. C'est notre conviction. Et c'est vrai que cette libération est la conjonction de trois choses. La première, c'est que nous avons décidé de faire une grève de la faim. En 89, la France va célébrer, effectivement, le bicentenaire de la Révolution française. Donc, nous écrivons dans nos prisons un texte mettant en accusation l'État français, le gouvernement français, qui dit qu'il va fêter sa révolution, et en même temps, nous sommes dans ses prisons. Et je rappelle effectivement le fait qu'en 1994, nous connaissons la première abolition après 5 ans en esclavage. Bon. Eh bien, cette grève de la faim va durer 23 jours. En Guadeloupe, il va y avoir des soulèvements un peu partout, notamment à Port-Louis. Et enfin, je crois, certains politiques français prennent conscience qu'on ne peut pas accepter ce procès en cette année qui va mettre la France, je dirais, un peu mal à l'aise. Et donc, effectivement, nous sommes libérés. Nous arrivons ici en juillet. d'une nièce populaire extraordinaire. J'avoue que quand nous sommes arrivés, il y avait des centaines de gens à l'aéroport et que le cortège qui m'emmenait a été, je dirais, a essayé de se soustraire à la foule, et puis on s'est retrouvé quelque part à la campagne en Guadeloupe, on ne sait plus où on était. C'est le souvenir que j'en garde. Mais c'est vraiment très, très, très fort, effectivement, et qui prouve que, bien, que une partie du peuple assez importante avait compris et adhéré à notre combat.
Donc là, votre vie de militant va évidemment se poursuivre, l'Ukrainette, après votre libération, donc de nouveaux combats, vous formez un nouveau mouvement.
Oui, alors ça va être le KLNG. Le KLNG va travailler à mettre en place justement ce projet économique. Nous avons écrit un document, effectivement, sur un projet économique, et on met en avant la nécessité à ce moment-là, en 2001, nécessité d'avoir une autorité politique Guadeloupe. Parce que nous sommes persuadés que ce n'est pas par la voie des urnes, c'est pas en allant aux élections municipales, au cantonal, au régional, dans le cadre du système. C'est-à-dire que quand on est élu, eh bien, on fait fonctionner le système. Et on n'en sort pas.
Vous voulez rompre le
système. On veut sortir du système. Donc, quand on dit casse-code, sortir du système. Et donc, nous prenons effectivement la mise en place et la naissance de cette autorité. Autre chose également, c'est que parmi les symboles, si vous voulez, de notre identité, il y a forcément la question de la carte d'identité. Et depuis 2010, nous avons mis en place en octobre 2010 la carte d'identité guadeloupéenne. Et nous avons plusieurs centaines de personnes aujourd'hui qui ont leur carte d'identité. Alors au début, le préfet de l'époque a fait quelques pressions en disant qu'il n'est pas sûr que ce soit légal, etc. Mais malgré tout, il n'y a pas eu de poursuite. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de gens qui réclament leur carte d'identité guadeloupéenne. À partir du moment où vous prenez cette carte et que vous faites des démarches volontaires, c'est que vous reconnaissez que ce pays est à vous et que vous avez aussi l'obligation de le défendre parce que c'est le patrimoine commun qui appartient au peuple guadeloupéen et aux enfants, aux générations qui viennent derrière nous.
D'ailleurs, je crois que c'est lors d'un de vos procès, vous aviez déchiré votre carte d'identité.
Oui. Vous avez bonne mémoire, effectivement. C'est lors de procès à Pointe-à-Pitre. La salle était comble et nous avions réussi à faire entrer entre ma carte d'identité. Et au moment où les juges sont installés, je me lève et je prends la parole en disant à ces juges que je ne leur reconnais pas le droit de nous juger. Qui sont là, ils sont les héritiers des juges français qui jugeaient nos ancêtres sur la base du code noir, qui n'est toujours pas abrogé à ce jour, de toute façon. Et qu'à ce titre, ne le reconnaissant pas, j'ai brandi la carte d'identité française, dans tout le monde. Et alors, gendarme était là, tout. Et puis, j'ai déchiré un morceau, j'ai fait une boule et je l'ai envoyé à la figure. À ces juges. Alors, ils se sont levés comme une foulée de moineaux. Les gendarmes ont assis de boxe, etc. Bon, ça a été la cohue. Les parents qui étaient là nous envoyaient des fleurs, etc. C'était vraiment génial. Voilà. Donc, c'était le procès rêvé. Voilà. Et donc, on s'est servi des tribunaux français pour faire le procès du colonialisme français. Voilà.
En tous les cas, l'Ukrainette, la Guadeloupe n'est pas majoritairement en faveur de l'indépendance. Et vous, votre idée, c'est de conscientiser, c'est de que la population s'éveille.
Alors, vous savez, je ne vais pas nier le fait que nous sommes minoritaires. Mais est-ce que pour avoir raison, il faut être majoritaire? C'est ça la vraie question. Alors, nous avons des convictions. Nous sommes persuadés qu'il n'y a pas d'autre voie. D'ailleurs, récemment, quand M. Fillon est venu ici en Guadeloupe, il était donc le Premier ministre de M. Sarkozy. Il a dit que nous sommes en fin de cycle, hein, que le système ne peut plus durer, que la France est ruinée. Et il disait, prenez vos responsabilités quelque part. Mais les élus guadeloupéens n'ont pas voulu l'entendre, ils n'ont rien entendu, parce que c'est un langage qui ne leur plaît pas. On est dans une logique d'assistanat, où les politiques vont demander à Paris, à Bruxelles, vont quémander des subventions. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens de faire, mais on attend toujours de recevoir. Nous sortons de cette logique, nous. Donc, donner aux Guadeloupéens plus confiance en eux, parce qu'il y a un problème de confiance. Souvent, on doute de nos capacités.
Chante-là, nous nions chanter qui est à nous.
Marche du 29 janvier 2009.
Nous nions chanter qui est à nous. La Guadeloupe, c'est à nous. La Guadeloupe, c'est un bataille. Le pays qui va s'aillonner. S'aillonner, il y a nous. La Guadeloupe.
Toute la Guadeloupe mobilisée contre la vie chère à Pointe-à-Pitre. Plus de 3000 manifestants ont répondu à l'appel d'une cinquantaine d'organisations syndicales, politiques et culturelles. Tous les secteurs du public et du privé ont été affectés par ce mouvement. Dans les écoles, les enseignants étaient en grève et de nombreux parents ont préféré garder leurs enfants à la maison. Notons également une forte mobilisation chez les douaniers, les employés de la Générale des Eaux et de EDF. Conséquence, des coupures d'électricité ont eu lieu et les lignes téléphoniques ont été perturbées.
Il est inadmissible qu'il y ait un pays comme la Guadeloupe,
qui est rongé par le chômage, qui est rongé par le sous-emploi, qui est rongé par le racisme.
Elie Domota, leader du collectif contre la profitation, le LKP.
Que celle réponse à l'État, c'est les insultes, c'est les injures. Que celle réponse à les béquets, que celle réponse à Willy Angel, que celle réponse à les patrons, c'est justement de ne pas négocier. Et dernière proposition à Yossé Kibitin, 1,6% d'augmentation. C'est même pas le coût de la vie. C'est considéré qu'il y a rétabli. A pas question de molly, hein. Jodi là, il faut que vous respectez Guadeloupéens en Guadeloupe.
Le LKP a suscité beaucoup d'espoir. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont regroupées. Des gens qui ne s'étaient pas rencontrés depuis longtemps étaient heureux de se voir, d'être ensemble et de marcher ensemble. On a marché pendant 40 jours. Et c'est vrai que les revendications étaient essentiellement d'ordre économique. Il y avait les 200 euros d'augmentation des salaires. Il y avait aussi différents domaines qui nécessitaient, je dirais, une amélioration. Nous, en tant que politique, nous avons adhéré à la démarche sans mettre en avant nos propres revendications. Donc, ce n'était pas une démarche politique. C'était avant tout économique et sociale. En tant que politique, nous avons proposé au LKP une démarche disant que nous avons gagné une première étape. Profitons de cette mobilisation pour passer à l'étape politique. On n'a pas été suivi. Et finalement, le mouvement a perdu de sa force. Il a perdu sa force, il est beaucoup moins fort qu'avant. Et il s'est en même temps radicalisé lorsqu'il est devenu moins fort. Et aujourd'hui, le LKP dit vouloir être une force politique. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Mais il n'y a pas encore, je dirais, une parfaite harmonie entre ce nouvel LKP qui se veut politique et les organisations politiques qui militent pour l'indépendance. Et ce continuum n'est pas fini. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il faut aller plus loin. Même si je fais partie d'une organisation qui s'appelle aujourd'hui le FKNG, Force pour construire une nation Guadeloupe, nous sommes dans une démarche visant à mettre en place, je dirais, les fondations d'une autorité politique guadeloupéenne. Alors, chez nous, en Colombie, on dit carisol. Carisol, c'est-à-dire les fondations. Avant de construire une maison, on fait les fondations. Donc, dans les semaines qui viennent, vous allez entendre parler de l'apparition, je dirais, d'une structure qui a vocation à devenir une autorité politique.
Aurélie Marseille. Prise de son, Myriam Guillot. Mixage, Bruno Mourlan. L'Ukrainette, itinéraire d'un indépendantiste guadeloupéen, par Séverine Yattard et Séverine Cassard.
Nous continuons demain notre semaine consacrée à l'histoire des indépendantismes en nous intéressant à la Catalogne et à l'histoire de cette volonté d'indépendance de la Catalogne. Et jeudi, nous traiterons des indépendances du 19e siècle en Amérique latine. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet rénové de France Culture. Vous pouvez également nous y écrire par la petite enveloppe qui est placée sur chacune des pages. Également télécharger l'émission du jour ou toutes les autres et les écouter en ligne. N'hésitez pas également à participer à notre groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou à nous suivre sur le réseau Twitter.